RénoDays, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Immo, Bâti Radio et Radio Territoria.
Et bienvenue sur nos antennes, ravi de vous retrouver toujours ici depuis le Hall 6 Paris Expo, porte de Versailles, pour cette deuxième journée du forum RénoDays. Depuis hier et encore aujourd'hui, nous vivons donc ce rendez-vous national consacré à la rénovation énergétique avec de nombreux invités qui viennent nous rejoindre autour de cette table. Je m'empresse de vous présenter les suivants. Marjolaine Meignier-Millefer, bonjour.
Bonjour.
Vice-présidente de l'association Stop Fraude, ancienne parlementaire. Merci d'être présent. À vos côtés, Florence Lier. Bonjour. Alors, on vous entend pas, parlez bien dans le micro.
Bonjour.
Voilà, c'est super. Présidente du GPC2E, Simon Huffeteau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge de la coordination de la rénovation énergétique au sein du ministère de la Transition écologique et en soutien de la création de l'association Stop Fraude, dont le lancement a été fait d'ailleurs sur ce forum RénoDays. Déjà, pourquoi le lancement de l'association Stop Fraude est-il essentiel pour réussir à répondre à cette question, la massification d'une rénovation énergétique d'ampleur, Marjolaine?
Alors oui, c'est tout chaud, le lancement vient de se faire sur les RénoDays et Lionel Cos, qui est donc président de l'association Stop Fraude, a déjà dû nous quitter pour reprendre ses travaux, donc c'est moi effectivement qui ai le plaisir d'être avec vous. Pourquoi réussir la rénovation énergétique?
La massification,
oui, c'est quelque chose qu'on a dit et répété, mais c'est un enjeu d'utilité publique. Réussir la rénovation énergétique, c'est quelque chose qui embarque tout le monde, c'est une question de pouvoir d'achat des ménages, c'est une question de soutenabilité de notre modèle énergétique, c'est un enjeu tellement important, et sur les RénoDays on a passé notre temps à expliquer à quel point c'était important de le réussir, et le sujet de la fraude aujourd'hui, ça devient une raison ou une forme de doute qui se crée et qui viennent fragiliser nos engagements, fragiliser nos dispositifs, fragiliser les investisseurs qui se disent du coup, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, si on met de l'argent dans ces dispositifs et que ça s'évapore sous forme de fraude, peut-être qu'on ne le fait plus. Et donc du coup, ça devenait absolument essentiel et urgent et important qu'on arrive à se structurer, à se fédérer du côté des acteurs privés davantage pour arriver à faire un complément d'action, parce que l'État agit déjà sur le sujet, mais les acteurs privés le faisaient de manière isolée jusqu'à présent, et grâce à l'association Stop Fraude, l'objectif c'est qu'on puisse faire collectif pour lutter contre ce fléau et faire en sorte que les quelques poignées de gens qui sont responsables de ces fraudes, mais qui du coup créent un tel tort d'image et de confiance dans nos projets, soient stoppés.
Donc c'est une association loi 1901. Comment elle fonctionne très concrètement?
Alors elle est créée, elle est lancée. Derrière, on a besoin que nos adhérents nous rejoignent pour qu'on puisse composer des collèges et que du coup on puisse composer comme une association classique, un conseil d'administration, un bureau, et pouvoir très vite prendre les premières décisions et les premières actions de l'association. Et pour vous dire, il y avait énormément de monde sur le lancement de Stop Fraude cet après-midi, avec plein de gens qui nous disaient, et donc vous avez commencé à travailler sur ça, oui, on y va, mais d'abord rejoignez-nous, constituons ce conseil d'administration et ce bureau pour qu'on puisse prendre les premières décisions et nous lancer. Mais on sent qu'il y a vraiment de l'attente et de l'intérêt pour le projet.
Quand on parle de fraude, on parle de quoi là?
C'est bien le problème. Aujourd'hui, quand on parle de fraude, on met un chapeau un peu générique sur toutes sortes de choses.
Ouais.
Et il faut vraiment qu'on arrive à qualifier ces sujets et à dire que la fraude, j'ai envie de dire pratiquement mafieuse structurée, qui en fait agit sur tous les sujets qui vont de la carte vitale en passant par les assurances et qui vont du coup chercher à se nicher dans les sujets de rénovation énergétique, que cette fraude-là, qui n'est pas du tout liée aux acteurs classiques de la rénovation énergétique et aux filières professionnelles qui s'y engagent, mais que cela, on puisse arriver à les stopper avec des outils à la hauteur de ce qu'ils mettent en place. Et c'est particulièrement filou, parce que dès qu'on met en place un système, évidemment, ils se décalent et ils essayent de se faufiler autrement. Donc c'est un travail qui nécessite une coopération étroite parce qu'ils sont extrêmement agiles pour trouver de nouvelles failles et de nouveaux modèles. Et donc, on met en place un système et la seconde d'après, c'est comme s'ils nous avaient échappé et qu'ils étaient passés à autre chose. C'est pour ça que la réponse, elle doit être structurée, coopérative, extrêmement large, et qu'on s'est forcé dans Stop Fraud à avoir un collège et un panel d'acteurs très différents qui puissent nous rejoindre pour qu'on puisse vraiment les attraper sous tous les angles.
Et anticiper les coups d'avance qu'ils peuvent avoir.
Absolument.
Absolument. Simon Huchetot, du côté de l'État, c'est quoi la stratégie justement pour coordonner la lutte contre la fraude en matière de rénovation énergétique ?
Alors, l'État, effectivement, en tout cas les services de l'État sont aujourd'hui assez bien organisés sur ce sujet. On a des échanges très réguliers entre services d'enquête, entre structures qui portent les dispositifs d'aide qu'on a évoqués, le certificat d'économie d'énergie, donc le PNC2E par exemple, ou bien l'ANA. Il y a des échanges très réguliers qui ont lieu, et ces échanges se font évidemment dans les cadres réglementaires qui sont prévus. Ces échanges sont coordonnés par la mission de coordination antifraude, MICAF, qui est une structure qui dépend du ministre des Comptes Publics. Et donc, effectivement, il y a une organisation aujourd'hui interne aux services de l'État qui est très active et qui travaille aussi bien sur les sujets de prévention que sur des sujets de coordination des contrôles, que sur des sujets de typiquement lutte plus opérationnelle contre des cas précis et donc dans une logique de sanction ou de répression. Et aujourd'hui, effectivement, c'est la limite de cet exercice, c'est qu'on reste sur des sujets de coordination interne à l'État et qu'avoir des interlocuteurs privés de confiance et représentatifs, c'est quelque chose qui pour nous est intéressant, pour l'État est intéressant, afin effectivement de pouvoir tester des idées et pouvoir avoir des retours opérationnels sur l'efficacité des dispositifs que l'on met en place.
Ouais, donc de votre point de vue, cette association a toute son utilité.
L'utilité de cette association est claire, ou en tout cas, elle peut être pour nous un interlocuteur clairement identifié et avec lequel on aura pas seulement plaisir à échanger, mais réellement une vraie utilité à échanger.
Et aujourd'hui, comment est-ce que vous réussissez à travailler finalement concrètement avec les acteurs privés, puisque ce sont d'eux dont on parle, entre autres, pour mieux justement détecter et déceler les abus ?
Alors, de manière générale, l'État, on va avoir typiquement des évolutions réglementaires qui peuvent être diffusées. Lorsqu'on met en place ces évolutions réglementaires, il y a évidemment des consultations du public qui sont menées sur ces textes. Ces consultations du public sont ouvertes. On va recevoir effectivement les commentaires de telle ou telle partie prenante. L'intérêt de l'association, c'est pour nous d'avoir un regard de spécialiste sous l'angle de la fraude lorsqu'on peut avoir des textes spécialisés, par exemple. Un autre canal de coordination va être typiquement lorsqu'on a nos propres réunions dans lesquelles on travaille sur la coordination opérationnelle que j'évoquais tout à l'heure, entre les dispositifs d'aide ou avec les services d'enquête, on peut avoir intérêt d'inviter des interlocuteurs représentatifs, cette association, mais pourquoi pas d'autres également, mais avec qui on peut échanger pour tester ces idées dans des discussions vraiment de spécialistes sur ces sujets qui sont des sujets quand même assez techniques.
Donc il y a un vrai relais opérationnel qui va se faire. Finalement, c'est un partenaire d'alerte aussi, quelque part, l'association Stop Fraud.
Alors, on verra.
Ouais. Mais
on sera à l'écoute, effectivement, des signaux qui pourront nous être envoyés spontanément par les parties prenantes externes. Et plus ils sont représentatifs et plus ils seront en mesure de nous apporter des signaux précis, et plus, évidemment, on y prendra attention et on y accordera de l'importance.
Je vais revenir vers vous dans un instant, Florence Liévin. Marjolaine, c'est important, effectivement, que vous puissiez pouvoir alerter justement les autorités pour signaler ce qui se passe.
Oui, c'est extrêmement important. Là, je peux témoigner de l'époque où j'étais encore parlementaire. En fait, les acteurs privés, ils venaient nous solliciter en tant que parlementaire en nous disant, voilà, on constate ça, c'est un vrai problème, il faut que vous fassiez entendre, interpeller les pouvoirs publics sur ce sujet parce que c'est une vraie difficulté. Et quand on était interpellé en tant que parlementaire, c'était des fois très désorganisé. biaisés, hein, ça venait un peu de partout, etc. Et donc, pour arriver à distinguer le vrai du faux dans ces cadres-là, c'est super difficile. Et je pense que du coup, d'avoir une association qui est vraiment organisée, structurée, et encore une fois, avec une collégialité et une représentativité extrêmement large, hein, le but du jeu, c'est vraiment que tous ceux qui ont envie de travailler et de lutter contre la fraude nous rejoignent et qu'ils trouvent une place dans notre association, qu'on se passe les informations le plus rapidement possible, qu'entre les acteurs, les signaux faibles dont vous parlez, on les capte et qu'on les partage assez vite, parce que la problématique, c'est que on sent une faille et en fait on va pas forcément en parler, mais du coup cette faille là qui est identifiée par l'un, l'autre pourrait la confirmer ou dire oui mais moi aussi je vois ça. Et aujourd'hui ça se fait de manière assez informelle, alors que dans le cadre d'une organisation structurée, on gagnerait énormément de temps et d'impact. Et si effectivement on peut arriver à ramener un élément de parole et de voix ramassé et clarifié pour les pouvoirs publics, évidemment on sera bien plus audible et ils seront évidemment bien plus crédibles dans leurs interpellations. Et c'est je crois ce dialogue là, vous imaginez le nombre d'acteurs qui sont concernés par ces sujets, et si vous avez chacun qui interpelle directement, on s'en sort pas. Donc là ça permet d'avoir une sorte de canal de communication simplifié pour tous et qu'on puisse coopérer de manière très efficace.
Il est complété.
Non. Tout ce qui a été dit est assez correct, effectivement.
Florence Lévin, je reviens vers vous. Le secteur des certificats d'économie d'énergie, on va le dire, est directement exposé aux fraudes. C'est quoi les pratiques les plus courantes que vous, de votre côté, vous êtes amené à constater ?
Alors, il y a des pratiques assez grossières qui consistent dans l'usurpation d'identité, dans l'absence finalement de travaux. Il y a des choses qui sont beaucoup plus sournoises, où on va avoir certains acteurs qui vont rentrer dans le détail d'un audit énergétique pour aller modifier. Par exemple, la zone climatique de Nantes. On a des déclarations. Nantes se trouve à 2000 mètres d'altitude, ce qui va permettre d'augmenter les besoins de chauffage et de finalement avoir des déclarations qui sont beaucoup plus intéressantes en termes de primes qui vont être données derrière. Donc, on a véritablement une professionnalisation de la fraude qui s'est opérée ces dernières années, et où là, on avait quelque chose de relativement facile et grossier à détecter. On se rend compte, et l'IA, l'intelligence artificielle, ne vient pas nous aider, bien au contraire, que l'on a désormais tout un lot d'acteurs qui sont devenus des ultra spécialistes de la fraude au certificat d'économie d'énergie, et à MaPrimeRénov' hein, également.
Et à l'inverse, l'IA ne peut pas venir vous aider pour déceler les fraudeurs ?
Vraisemblablement. Je pense que c'est vrai que ça peut marcher dans les deux sens. Ouais. La difficulté, c'est qu'il faut à ce jour qu'on arrive à constituer donc collectivement des bases de données de vérification. Quand nous sommes des financeurs avant tout, et donc en effet très directement impactés puisque nous faisons l'avance de ces primes aux différents bénéficiaires ou aux professionnels avec lesquels nous travaillons. Et en effet, si on se rend compte finalement que les travaux qui ont été réalisés n'étaient pas éligibles, la plupart du temps c'est largement a posteriori, et les sociétés qui ont mis en place ces faux travaux ou ces travaux indus n'existent plus. Donc nous en sommes très clairement de notre poche, et nous pouvons en plus par ailleurs être sanctionnés par l'État, et quelque part à juste titre. Donc c'est vraiment la double peine à notre niveau. Et donc en ce sens, partager de nombreuses informations, recouper avec des outils d'intelligence artificielle l'ensemble de ces informations, doit nous aider en effet.
On arrive à chiffrer le montant des arnaques ?
Alors, on a des chiffres, en effet, qui ont été donnés l'an passé par l'administration. Hein. On est aux alentours un peu plus de 200 millions d'euros sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Peu ou prou la même chose sur MaPrimeRénov'. Donc, ça représente environ 5% de la fraude qui a été détectée et évitée en 2024. Ensuite, on sait malheureusement qu'il y a aussi une part de fraude qui passe entre les mailles du filet. Ouais. Et c'est véritablement sur ce pourcentage-là aussi qu'on a l'ambition de travailler avec l'association Stop Fraude.
Ben justement, j'allais y venir. C'était quelle coopération vous pouviez mettre en place avec l'association pour renforcer finalement l'efficacité des dispositifs de contrôle ?
Oui, il y a vraiment quelque chose qui nous anime, c'est ce fameux contrôle à l'heure actuelle qui se fait a posteriori. On le dit, hein, on en a énormément des contrôles sur le dispositif, mais ils se font après les travaux, parfois 6 mois, voire plus. C'est beaucoup trop tard. Les fraudeurs ont déjà disparu, voire même la société, en l'occurrence, n'existe plus. Donc il faut qu'on passe sur une logique de contrôle a priori. On a un certain nombre d'outils qui vont désormais nous y aider, notamment ce qu'on appelle le contrôle visuel à distance. Là aussi, hein, on peut mettre de l'IA, des photos horodatées, géolocalisées. Et donc nous, on est au niveau de notre groupement, on verra si Stop Fraude après partage notre analyse, mais on serait vraiment pour aller vers une massification des contrôles a priori, pourquoi pas aller jusqu'à 100% hein, sur les opérations qui sont les plus rentables pour finalement lutter le plus en amont possible et se départir des contrôles a posteriori qui sont des contrôles in situ, qui sont extrêmement coûteux et qui finalement arrivent bien trop tard dans la chaîne de valeur du contrôle.
Marjolaine, qui sont les adhérents de l'association du coup ?
Alors, c'est une bonne transition parce qu'effectivement, là, on entend la voix d'acteurs plutôt oui. du côté des C2E, mais par exemple, la manière dont un sujet comme ça peut être reçu du côté des artisans, c'est attention, vous allez lutter contre la fraude, vous allez nous augmenter des contrôles, on va se retrouver encore, comment dire, avec une masse de contraintes encore plus importantes, vous allez nous bloquer encore plus les travaux, c'est clairement pas l'objectif. Et l'objectif, c'est bien que vous parlez des collèges d'acteurs présents, il y aura donc évidemment. Les financeurs hein, des travaux de rénovation, les partenaires bancaires, assureurs, les collectivités territoriales et évidemment les acteurs faiseurs de travaux, artisans, les représentants des organisations professionnelles de ceux qui très concrètement agissent sur les travaux. Et en fait, on découvre aussi des collèges d'acteurs qui sont des associations périphériques qui nous disent « mais nous, on pense qu'on peut contribuer utilement à cette lutte contre la fraude. » Donc on est en train de composer ce panel pour qu'on ait vraiment cette représentation collective. L'objectif, c'est de créer de la fluidité, de s'assurer que quelque part les mailles du filet se resserrent pour les fraudeurs, mais qu'en revanche la fluidité se fasse sur les acteurs qui ne le sont pas, parce que un des points de tension qui peut se créer sur le sujet de la lutte contre la fraude, c'est de se retrouver avec un artisan ou un acteur honnête qui va faire des travaux et qui se retrouve pris dans les filets et qui va se retrouver avec des délais ou des particuliers hein, qui se retrouvent avec des délais de versement des aides qui arrivent très tard et qui du coup en ressentent une frustration très très légitime parfois en étant très en colère contre les pouvoirs publics qui ont lutté contre la fraude, alors que c'est absolument nécessaire et essentiel qu'on le fasse.
Et vous avez raison de rappeler, de parler des particuliers, parce qu'ils sont victimes aussi directement de ces fraudes.
Donc typiquement, les associations de consommateurs pourraient être des partenaires très importants dans notre tour de table. L'objectif, c'est encore à ce stade, on élargit le spectre le plus large possible. C'était vraiment important pour nous d'être là au lancement des Reno Days, parce que c'est un moment où, pour le coup, tous les acteurs sont présents. Et ensuite, on... bienvenue à tous ceux qui veulent nous rejoindre pour qu'on puisse composer officiellement ce tour de table du conseil d'administration de l'association Stop Fraude et qu'on puisse très rapidement se mettre d'accord sur les premiers outils dont on se dote pour agir activement contre la fraude.
Et j'imagine qu'il va y avoir une campagne de communication autour de l'association pour essayer de fédérer un maximum de monde.
Alors absolument, mais je dois dire que la campagne de communication
s'est
déjà démarrée et on sent vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes et beaucoup d'intérêt de la part des acteurs qui sont pressés. Mais vraiment très largement. Les gens nous disent mais alors, est-ce que l'association va traiter ce sujet-là ? Est-ce que l'association va agir là-dessus ? Et nous, on se dit oula, il faut qu'on arrive déjà à rassembler tout le monde. Ensuite, on va poser toutes les interpellations des uns des autres en disant sur quoi ils ont envie de travailler, et qu'ensuite on vérifie qu'on se donne des moyens en face de nos ambitions et qu'on puisse prioriser les chantiers, etc. Mais vraiment, c'est bouillonnant. On sent que ça tient à cœur de tout le monde
tant
et
mieux,
qu'il est vraiment temps qu'on s'y mette en collectif.
Bientôt un site web.
Ouais, ça va venir,
tout ça va venir, va s'enclencher. Merci à tous les trois d'avoir gentiment répondu à nos questions, et puis c'était bien d'avoir cet éclairage donc sur le lancement de cette association. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à mes questions, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant pour faire une dernière émission ici depuis cette deuxième journée du forum Reno Days, toujours au parc des expositions Porte de Versailles. Merci de votre fidélité et à très vite.
Reno Days, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Immo, Bâti Radio et Radio Territoria.